Merci à Jean-Marc, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, ce dimanche 11 novembre, on est ravis de vous retrouver pour 2 heures de sport hein, sur l'antenne d'Hervé. 9h, 10h, tribune sport et 10h, 11h, tribune foot hein, qui avait effectué sa rentrée la semaine dernière. Alors justement, la semaine dernière, on avait parlé de basket avec donc la section de Rambouillet. On avait eu aussi donc Michel Martin il y a 15 jours hein, pour nous parler donc du cyclisme sur le plan départemental et du comité départemental olympique et sportif des Yvelines. Et ben ce matin, on va, et on est ravis d'accueillir un club phare de la région en matière d'handball, à savoir donc la section de Montigny-le-Bretonneux, représentée par sa présidente, Marie-Josée Godefroy. Marie-Josée, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va ?
Ça va très bien.
Très bien. Donc, on va effectivement bien parler un peu du hand pendant une bonne heure, parce qu'il y a un événement énorme et important qui va se dérouler chez vous dans quelques semaines, enfin tout près donc d'ici, à plaisir, à savoir le mondial de handball féminin.
Tout à fait.
Hein, c'est donc un événement dont vous attendez beaucoup au niveau retombées.
Bien sûr, on attend des retombées pour faire connaître encore plus ce sport qui commence à être un petit peu connu, plus le handball toujours masculin que le handball féminin. Mm-hmm. Mais on espère, avoir des retombées, que ce soit médiatique, que ce soit au niveau des licenciés, de l'intérêt des municipalités pour ce sport. Voilà.
Mm-hmm. Alors, j'allais dire chez vous, bon, vous êtes de Montigny, mais plaisir, c'est pas bien loin. Puis vous allez accompagner cet événement, vous allez être sur le terrain aussi. Sur le terrain, au niveau de l'organisation, quoi.
Oui, tout à fait. Il y a énormément de bénévoles qui se sont proposés pour dans toutes les villes de France qui organisent ce mondial, et notamment à plaisir. Donc énormément de bénévoles, une organisation assez importante, bien sûr, toute une logistique, mais tout le monde a répondu présent.
Très bien. Vous êtes présente donc du hand de Montigny, je l'ai dit, hein, des clubs phares donc de notre département. Depuis combien de temps?
Je suis présidente depuis le mois de juin seulement.
D'accord, voilà. C'est le baptême du feu alors.
Tout à fait.
Très bien, comment on en arrive à la présidence? C'est un concours de circonstances ou c'était votre destin?
Destin, je ne sais pas. Bon, au départ je suis joueuse comme beaucoup de gens. Donc je suis arrivée au club de Montigny en tant que joueuse. Le club m'a plu, j'ai commencé à m'investir un petit peu dans le bureau. J'ai fait de l'entraînement aussi, et puis voilà, le poste de président étant on va dire vacant, je me suis proposée.
Très bien. Donc je l'ai dit, handball durant la première partie de cette émission, on saura aussi tout sur la prochaine édition de la course des quatre châteaux hein. C'est Stéphane Schubert qui viendra nous en parler, et puis donc je l'ai dit aussi hein, on retrouvera naturellement tribune foot à partir de 10h, ça sera le FC Valais 78 et puis Saint-Cyr-sous-Dourdan qui auront donc les honneurs de notre émission. On devait parler de catch ce matin, il y a eu un petit coup de fatigue pour un des catcheurs, donc ça fait qu'on a été obligé de différer donc cette émission sur le catch, mais je pense qu'on en saura un peu plus la semaine prochaine. En principe, on devrait donc les retrouver à ce micro la semaine prochaine. Allez, la pub, la musique, et ensuite on rentre donc Marie-Josée dans le vif du sujet, on y va. Oui, sur les 103.7, on parle de handball ce matin avec Marie-Josée Godefroy, présidente de la section hand de Montigny-le-Bretonneux. Comment s'est passé, Marie-Josée, ce début de saison, pour cette entame de saison pour votre club?
Alors, au niveau du club, ça s'est relativement bien passé. Nous avons une petite perte de licenciés.
Ah bon?
Et oui, on a perdu à peu près une trentaine de licenciés.
Et c'est dû à quoi, ça?
Nous ne savons... Alors, c'est dû d'une part aux jeunes, parce que nous avions énormément de jeunes qui sont passés qui ont passé leur bac, et donc qui poursuivent des études. Et de ce fait, soit ont quitté Saint-Quentin, soit s'investissent dans les études et donc ont arrêté le sport. Et puis il y a peut-être aussi sur les équipes plus jeunes de garçons, un petit peu l'effet rugby peut-être.
Oui,
qui
ça.
Fait que, à cet âge tout petit, on sait pas trop encore quel sport choisir, et c'est vrai que le rugby a été très porteur.
Oui, c'est pour ça, on en parlait, hein. On a commencé donc cette émission avec ce sujet sur le mondial de hand féminin. Un événement, un grand événement en France, ça attire toujours, quel que soit donc le résultat final, ça attire toujours du monde. Hein. Pour vous, c'est toujours porteur. Hein. Ce sont de véritables icônes, les sportives et les sportifs.
Oui. Il y a un engouement. J'espère qu'il y aura un engouement aussi pour le handball féminin.
Bah, si l'équipe de France arrive en finale, oui, fatalement.
Oh, pas forcément en finale, mais au moins sur les phases finales. Les phases finales. Mais bon, je pense qu'il y aura de toute façon des matchs très intéressants. Comme on a vu au rugby, c'est pas forcément les grandes équipes qui rendront les matchs c'est intéressant.
Et ce qui est bien, effectivement, hein, c'est que on en parlait aussi avec Michel Martin, donc le président du DOS, enfin le vice-président du DOS, c'est que les Yvelines amènent et accompagnent ces gros événements. On a eu le mondial, donc où les Yvelines ont été partie prenante. Il y avait aussi quelques années avant le mondial des moins de 19 ans. Donc, bah, il y a des matchs en Île-de-France, c'est dans les Yvelines, à plaisir.
Oui, tout à fait.
Hein, donc c'est bien ça.
Ah bah c'est très bien pour le département, pour la Alors, région.
Justement, vous avez beaucoup de sections sportives. Montigny, c'est une ville très grande. Il y a beaucoup d'associations sportives qu'on a très souvent donc reçues à ce micro. Il y a quelque part une forme de concurrence. Ça vous enlève du monde.
Oui, tout à fait, c'est vrai.
Hein, le foot américain, le rugby, tout ça, ça vous enlève du monde fatalement.
Oui, ça nous enlève du monde. Mais bon, c'est vrai quand même qu'il y a énormément de monde aussi sur Montigny. Mm-hmm. Donc il y a les villes aussi alentours. Oui. Donc par exemple, nous, on tourne quand même avec 230 licenciés, même si on en a perdu. Mm-hmm. Donc ça fait quand même du beau monde.
C'est un des sports majeurs, hein. On l'a dit, le hand sur Montigny. Bon, c'est le foot qui est le sport le plus important, mais le hand est un sport bien ancré, hein, dans la vie sportive de Montigny.
Tout à fait, surtout que l'équipe féminine est en nationale maintenant depuis 7-8 ans.
D'accord, donc parmi vos licenciés, vous l'avez dit, 230 licenciés. Donc beaucoup viennent aussi des villes avoisinantes, donc Maurepas, Élancourt. On vient de beaucoup plus loin, vous allez jusqu'à Coignères, les Essert-le-Roi, peut-être même dans notre canton.
Oui. Bah on a même des personnes qui viennent pas beaucoup, mais il y en a une ou deux qui viennent de Conflans.
Ah oui.
Donc oui, ça vient un petit peu de partout.
Pourquoi ? Parce qu'on manque de clubs de hand quand même dans les Yvelines. Bon, il y a Rambouillet, hein, avec Dominique Fancelli. Il y a Montigny, mais il y a pas des clubs un peu partout quand même.
Oh bah si, vous avez à Maurepas, à Guyancourt, il y a des équipes de hand, à Voisins, il y a des équipes de hand.
D'accord.
Donc non, ce qui manque en fait peut-être dans les Yvelines, c'est une équipe, c'est d'autres équipes en national, que ce soit féminine ou masculine.
Alors vous. Est-ce que vous considérez comme présidente d'un club de haut niveau ou d'un club formateur, ou les deux à la fois?
Alors là, cette année, je dirais que c'est plus un club formateur.
Ouais, ouais.
Parce que même notre équipe 1, ce sont des jeunes en devenir. On a eu pas mal de renouveau. Et la moyenne d'âge, elle doit être de 20-21 ans. Donc pour jouer en national, c'est très jeune. Et ce sont des filles formées au club. Donc là, on est plus sur l'aspect formation.
D'accord. Et les jeunes, ils restent dans votre club. En général, ils font leur carrière, toute leur carrière dans votre club, ou alors au bout d'un moment, ils sont aussi sollicités par des sirènes extérieures.
Oh, il y en a certains qui sont sollicités par les sirènes extérieures. Donc c'est vrai que quand on a des équipes à un certain niveau, on peut garder ces jeunes, mais par exemple pour nos garçons qui sont qu'en régional, si on a un jeune qui aspire à jouer plus haut, c'est vrai qu'à un moment donné, il va quitter Montigny.
Il y a pas un accord tacite comme ça se fait dans certains sports où on est un peu pourvoyeur et pépinière de jeunes talents, quoi. C'est-à-dire que il y a des clubs franciliens, hein, on va pas les citer, qui viennent comme ça puiser dans les autres clubs de la région parisienne.
Non, ça se fait pas trop. Il y a pas trop d'accord.
Il y a pas des recruteurs, des dénicheurs dans
Non, ça se fait officieusement, on va dire. C'est sur une compétition, un entraîneur ou un joueur qui l'intéresse prend contact avec lui. Mais il n'y a pas de filière de recrutement.
D'accord. Non, parce qu'il y aurait des clubs comme Ponto Combo, Créteil, qui pourraient venir voir dans les clubs donc franciliens et dire, tiens, toi, t'es bon, viens jouer chez nous l'année prochaine. Quoi.
Je pense qu'ils le font, mais par exemple, sur des moins de 18 qui font championnat de France, des choses comme ça.
Alors, on l'a dit, 230 licenciés, donc pas tous de la ville, pas tous de la ville nouvelle, hein, ça vient de beaucoup plus loin. La tranche d'âge, elle est très vaste finalement.
La tranche d'âge, elle va de 7 ans. De 7 ans à, alors en tant que joueur, jusqu'à 40, même plus, puisque nous avons une équipe loisir, jusqu'à 52 ans.
D'accord, ça fait combien d'équipes engagées en tout dans les différents championnats, dans les différentes compétitions?
15 équipes engagées.
15 équipes.
15 Donc, équipes engagées, et dont il faut rajouter une équipe de moins de 10 qui, elle, ne fait que les entraînements, mais pas de match. Avec l'encadrement qui va avec, bien sûr.
Donc, ça nécessite aussi beaucoup d'encadrement, beaucoup de bénévoles, beaucoup d'éducateurs aux côtés de ces 15 équipes.
Tout à fait. Beaucoup d'éducateurs, beaucoup de gens formés, ayant des diplômes, parce que, je ne sais pas trop comment fonctionnent les autres sports, mais c'est vrai qu'au handball, par rapport aux équipes que vous avez, au niveau qu'elle évolue, vous devez avoir certains diplômes.
Ça se fait aussi dans beaucoup de sports. De plus en plus, maintenant, c'est une demande, qui est même une exigence, de la part des fédérations, d'avoir de plus en plus d'éducateurs diplômés.
Ce qui n'est pas plus mal.
Oui, mais d'un autre côté, ça tue pas un peu le bénévolat? Le véritable bénévolat, au sens propre du mot?
Non, parce que le bénévole se retrouve ailleurs. Soit il va aider l'entraîneur dans tout ce qui est logistique, déplacement, des choses comme ça. Soit il peut venir aider au bureau, s'occuper des événements. Donc, non, le bénévole qui a envie d'être bénévole trouvera toujours...
Et vous, ça marche bien le bénévolat dans votre club? Ou alors, comme dans beaucoup de sports et beaucoup d'associations, vous avez des, certains problèmes de bénévoles?
Non, pour l'instant, ça va. On a... Bon, c'est vrai que le problème, c'est toujours les mêmes. Donc ça tourne, mais bon, on arrive petit à petit. L'équipe de bénévoles étant très dynamique, d'autres et nous souvent les bénévoles sont des parents, et d'autres parents donc en fait sont attirés et viennent. Donc c'est vrai que toutes les années notre équipe de bénévoles s'enrichit, on va dire d'une à deux personnes.
Dans les matchs, vous partez comment, en voiture avec vos propres véhicules ou des temps en route il y a un car?
Non, alors pour toutes les équipes sauf l'équipe une, c'est-à-dire l'équipe des filles qui jouent en national, ce sont les véhicules. Donc c'est l'entraîneur, les parents, les joueurs, voilà, qui font leurs déplacements.
Vous allez loin jouer les matchs, non? Ou dans l'ensemble, ça reste encore...
Non, est-ce que c'est départemental ou régional? Bon, c'est vrai que la région peut aller assez loin, mais bon. Ça fait partie des joies du sport aussi.
Le hand dans les Yvelines, donc on a dit, vous avez un comité départemental olympique et sportif, donc très actif, qui accompagne les grands événements. Est-ce que le hand dans les Yvelines est un modèle de référence? Je veux dire, c'est un des départements où, en Ile-de-France où on a le plus haut niveau de club?
Non, il me semble que dans l'Est,
Ivry, Créteil,
ils sont plus... plus au niveau que nous pour l'instant.
Vous, en tant que présidente, votre ambition, quelle est votre ambition principale, première?
Alors, continuer toute la formation du club, améliorer l'encadrement, parce que même s'il est déjà bien, il faut quand même l'étoffer. L'étoffer, parce que il faut tourner avec, il faut changer les encadrants de temps en temps, parce que sinon on s'endort vite. Il faut des personnes extérieures qui arrivent pour de nouvelles idées. Et pour notre équipe 1, pour l'instant, on espère se maintenir cette année en National 2 et rester quelques années en National 2 pour se donner les épaules suffisantes pour pouvoir monter en National 1, parce que nous l'avons fait. Mais peut-être un peu trop tôt et pas comme il faut, et donc on est vite redescendu. Donc on espère que si on le fait une prochaine fois, ça sera pour rester dans la National 1.
On va parler de vos équipes fagnons, mais les résultats d'une manière générale sont bons pour vos autres sections. Vous aviez dit que vous aviez 15 sections dans les différents championnats. Le début de saison donc, est commencé depuis maintenant quelques semaines. Est-ce que c'est un bon début de saison?
Oui, c'est un bon début de saison. Bon, nous avons des équipes de jeunes qui... Le championnat jeune commençant très tôt. En fait, les équipes étaient incomplètes, donc les premiers matchs de délayage, ils les ont loupés. Donc en fait, c'est vrai que là, ils se retrouvent dans des championnats un peu plus bas que leur niveau. Donc là, maintenant, c'est vrai qu'ils gagnent trop facilement, mais bon, ça fait partie du jeu.
Quel type de présidente êtes-vous? Vous êtes quelqu'un omniprésente le plus souvent possible? Vous déléguez beaucoup? Il y a parfois certains coups de gueule à donner?
Bon, alors pour l'instant, je suis là depuis le mois de juin, donc j'ai pas encore eu de coups de gueule à donner. Mais bon, ça viendra, je pense, sûrement à certains moments. Si ce n'est, je suis pas trop... Enfin, omniprésente, non, pas trop. J'essaye d'être à Coubertin quand il y a des matchs, mais c'est vrai que on a tous une vie en plus professionnelle, familiale, donc mais je suis très aidée au niveau du bureau.
Ah, c'est ça, il faut savoir déléguer en tant que présent et présente, tout en montrant qu'on est quand même le maître à bord.
Oui, tout à fait, mais c'est vrai qu'un club ne fonctionne pas que grâce au président. Heureusement, il y a un bureau, il y a des bénévoles. Donc nous avons un bureau très, très dynamique qui prend des décisions. Donc en fait, après, c'est un arbitrage. Donc pour l'instant, ça va. Mon rôle n'est pas trop difficile à porter.
Bon, c'est bien.
Tout à fait.
Alors, donc, vos équipes fagnons, comment ça va se passer pour cette saison? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements durant l'intersaison déjà?
Il y a eu pas mal de changements. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons une équipe très jeune, donc avec certaines qui ont juste 18 ans, même certaines qui n'ont pas 18 ans. Donc, jouer en national, c'est pas pour elles, c'est tout un apprentissage. Donc, elles ont eu un début de championnat assez difficile. et elles se sont bien reprises il y a 15 jours parce qu'elles ont gagné à domicile sur un match où, où elles ont fait sortir leur combativité. Bon, la semaine dernière, ça a été un peu difficile. Et là, ben, cet après-midi, elles jouent à Coubertin contre Mérignac, grosse équipe. Donc, on espère qu'elles vont se battre.
Alors, Coubertin, hein, c'est le gymnase de Montigny.
Oui, de Montigny,
hein,
oui.
C'est pas Paris, hein, c'est le célèbre gymnase que vous partagez d'ailleurs avec beaucoup d'associations sportives. Hein,
tout
parce
à fait.
On y a souvent fait des grands matchs de boxe sur Coubertin. On y a fait aussi des réunions de gym. Hein, donc,
oui.
C'est facile, justement, de pouvoir partager tout ça parce que ça doit parfois poser problème dans le calendrier.
Bah, oui, mais l'avantage à Pontigny, c'est que nous avons plusieurs gymnases. Mm-hmm. Donc c'est vrai que soit la Doumègue, Coubertin, jouer à Coubertin, le terrain est quand même plus agréable. Mais des fois, bon, bah, c'est vrai, on peut se rabattre sur la Doumègue ou Alain Colas.
Donc, les jeunes, une jeune équipe féminine, hein, ce serait quoi l'ambition cette année
Se maintenir.
Se maintenir.
C'est une année d'apprentissage de ce niveau-là, parce qu'il faut apprendre à gérer l'impact physique. Hein. Nous avons en face, elles ont des femmes un peu plus denses physiquement, un peu plus âgées. Donc, quand elles prennent l'intervalle, elles le prennent à fond. Donc, nos petites jeunes, ben, il faut qu'elles... qu'elle soit un peu plus solide. Il y a toute une force psychologique aussi, parce que bah, c'est une année où bah, c'est vrai que des fois elle perd de 10 buts.
Ça, c'est le rôle
donc,
de l'entraîneur, ça.
Voilà, c'est ça, tout à fait. Et puis c'est le groupe aussi, c'est le groupe qui doit rester solidaire. Et aussi, il faut qu'elles appréhendent les déplacements.
Alors justement, c'est une question que je pose souvent à des présidents ou présidentes. Vous organisez des fois des rendez-vous extra-sportifs pour justement souder la cohésion d'une équipe, d'un groupe. Ça, c'est important, ça.
Donc ça, c'est l'entraîneur qui le fait. Donc en début de saison, souvent, il y a un stage, par exemple, pour intégrer les nouvelles et puis pour préparer la saison. Donc un stage sportif. Là, ça se fait sur Montigny, mais ça peut... Ça s'est fait et ça peut se faire à l'extérieur sur une semaine. Après, le problème, c'est les problèmes de congé.
Bien sûr. Et dans l'équipe Fagnon Homme, l'ambition pour cette année ?
L'ambition, c'est de monter. C'est de monter. L'année passée, ils ont loupé la montée en excellence d'un point. Donc cette année, il faut monter parce que notre but pour l'équipe garçon, c'est de retrouver la pré-nationale dans 2 ans.
Et là aussi, donc chez les garçons, ce sont des jeunes du cru ou alors vous avez recruté aussi à l'extérieur comme beaucoup ?
Non, ce sont des jeunes du cru.
Bien,
ce sont des jeunes du cru ou des jeunes qui sont arrivés sur Saint-Quentin pour leurs études ou pour leur travail et qui sont venus s'inscrire.
Alors on parlait du hand de son plan physique, hein, notamment de donc des filles. Votre sport, il a beaucoup évolué, il est devenu plus physique comme dans beaucoup d'autres sports.
Le handball a toujours été physique.
Oui, mais est-ce qu'il est plus encore aujourd'hui qu'il y a une dizaine ou quinzaine d'années ?
Alors, à notre niveau, je n'ai pas l'impression.
Non.
Au niveau national, oui.
C'est ça.
Parce que c'est vrai qu'ils ont inclus dans leur entraînement des séances de musculation.
On s'entraîne peut-être davantage aussi.
Tout à fait. Ben, c'est devenu professionnel, automatiquement. Alors que nous, c'est vrai qu'à notre niveau, cet impact-là, on ne le voit pas trop. Sauf quand on rencontre des équipes réserves de division, une ou deux.
Bien sûr. Et le tactique, le défensif, il prend le pas sur l'offensif, comme dans, ça se fait dans beaucoup de sports. Hein. On reproche que pour le rugby, pour le foot, les équipes qui défendent le mieux maintenant, bien réussissent à faire déjouer les adversaires. Est-ce que c'est le cas encore dans un sport comme le vôtre ? Est-ce que c'est possible ?
Oui. Disons que si, comme certains entraîneurs disent, si on prend 30 buts, hein, c'est difficile d'en mettre 31. Si on n'en prend que 20, c'est plus facile d'en mettre 21. Donc c'est vrai qu'une bonne défense, c'est important. Après, c'est vrai qu'il faut marquer des buts, mais ça va tellement vite au handball. Donc, je dirais oui, la défense est importante, mais c'est pas elle qui fait tout.
Une carrière de haut niveau, ça dure combien de temps ? 10 ans, 15 ans ?
De haut niveau, donc bah, vous avez des jeunes qui peuvent commencer en équipe de France vers 18-19 ans, pas souvent, mais il y en a certains qui peuvent aller jusqu'à 30 ans. Sauf certaines, hein, on voit là l'équipe de France.
Plus que Roland.
Voilà, tout à fait. Mais bon, après, ce sont de la personnalité, c'est les personnalités qui sont. Donc, oui, on va dire 12-14 ans, peut-être bien, oui.
D'accord. Les créneaux horaires, parce que donc avoir autant de clubs engagés, autant d'équipes engagées donc en compétition, ça nécessite des créneaux horaires d'entraînement sur toute une semaine pratiquement.
Tout à fait, tous les jours.
Oui, donc tous les jours sur deux gymnases. Les entraînements ont lieu à Coubertin ou ça a lieu aussi ailleurs?
Alors, on a trois gymnases. Les entraînements ont lieu sur Coubertin, sur la Doumègue et sur Maréchal. Et ben, ça dépend en fait des jours et ça dépend des créneaux horaires. Mais par exemple, je crois que c'est le lundi, nous avons les trois gymnases.
Et les matchs en compétition ont lieu tout le week-end, donc samedi ou dimanche.
Voilà, c'est ça, tout à fait. Vu le nombre d'équipes, de toute façon, il y en a forcément qui jouent le dimanche.
Alors, souvent, on a dit que le hand était un sport scolaire, universitaire. C'est encore vrai? Ça vous amène beaucoup de monde?
Non, pas trop.
Cette filière universitaire, ou ça a complètement changé?
Je pense que ça a complètement changé, parce que maintenant, dans les écoles primaires ou dans les collèges, ils font énormément plus de sport que le handball, c'est-à-dire qu'ils vont faire du frisbee, ils vont faire du ping-pong.
Alors qu'avant, notre génération, quand le premier sport qu'on faisait, c'était du hand, il y avait des filles de hand.
Donc c'est vrai que le collège ouvre les enfants sur beaucoup plus de sports, donc après, ils ne viennent pas systématiquement au handball.
Alors, vous l'avez dit, Marie-José, vous manquez le monde encore, vous manquez de jeunes filles, on peut se faire
du tout.
Même maintenant, après cette émission, là, ils vous téléphonent, ou ils viennent au... Comment ça se passe? Ils viennent au gymnase de Coubertin
Voilà, ils viennent au gymnase de Coubertin. Le plus simple, c'est d'aller sur le site de Montigny.
Oui.
Je ne connais pas l'adresse, mais en tapant handball Montigny-le-Bretonneux, on trouve.
Voilà.
Et à ce moment-là, vous avez les coordonnées des personnes qui pourront vous répondre.
Quel est le prix d'une licence et d'une cotisation?
Alors, pour les seniors, c'est 168 euros, donc les adultes. Et après, c'est dégressif jusqu'à 100 euros.
Oui. Et puis bon, c'est pas un sport cher, il faut une belle paire de baskets, c'est tout ce qu'il faut.
Voilà, c'est ça, tout à fait.
Et puis après, donc, du
le short est fourni par le club.
Du sérieux, de l'entraînement, et puis voilà quoi.
Oui, du sérieux, mais bon, je le disais, nous avons une équipe loisir, donc une équipe loisir, c'est mixte. C'est moi qui les entraîne.
D'accord, entraîneuse en plus. Entraîneur,
oui, on ne dit pas entraîneuse. Donc de 18 à 50 ans, c'est mixte, c'est la bonne humeur, c'est... voilà.
Alors, il faut être grand au hand, ou même un petit ou une petite y a sa place?
Même un petit ou une petite peut y avoir, y a sa place. Il suffit d'être dynamique, de courir, voilà, un petit peu.
Il y a aussi, naturellement, un mode de vie, il y a une éducation de vie à travers le sport. Est-ce que c'est aussi parmi vos priorités dans le hand, cette notion donc des valeurs à travers le sport?
La première valeur pour moi du sport, c'est le respect. C'est apprendre le respect des autres, apprendre le respect de l'arbitre, le respect de l'adversaire, de l'entraîneur, de ses partenaires. Donc pour moi, ça, c'est prioritaire. Et une fois qu'on a cet esprit sur le terrain, je pense qu'on l'a pour la vie. Et c'est un plus.
Ça, c'est arrivé qu'il y a eu des problèmes aussi, des fois, des jeunes qui faillent recadrer ou qui ne sont pas à l'heure aux entraînements. Parce que le respect commence là, il faut être à l'heure aux entraînements.
Tout à fait.
Vis-à-vis de son entraîneur et de ses partenaires.
Tout à fait. Ça, c'est le rôle des éducateurs. Et comme tout éducateur, ce sont des consignes qu'il faut répéter sans arrêt. C'est comme les parents, on rappelle les consignes parce que tout le monde essaye de passer l'interdit, d'aller un peu plus loin en disant on va m'autoriser. Donc recadrer sans arrêt. Nous avons aussi des attitudes de jeunes qui étaient inacceptables. Donc là, nous avons même convoqué des fois les parents.
Ah d'accord. C'est-à-dire que on contestait une décision de l'arbitre, non? On se comportait mal.
Oui, on se comportait mal par rapport à un arbitre, par rapport à ses partenaires, par rapport à un adversaire aussi. Faire de mauvais gestes, dire de mauvaises paroles, c'est inadmissible sur un terrain. Donc là, on recadre. Et si c'est nécessaire, on le fait avec les parents. Pour que les parents se sentent concernés aussi.
Bien sûr. Au niveau de l'arbitrage dans votre sport, ça se passe comment? C'est un secteur de jeu où on conteste beaucoup, qui est aussi très très controversé, comme ça se fait pour d'autres sports co. Est-ce qu'on donne aussi des cours d'arbitrage? Est-ce qu'on incite les jeunes à s'orienter vers l'arbitrage d'handball?
Alors, de même que les formations d'entraîneurs au handball, en fonction des équipes que vous avez, vous devez avoir un certain nombre d'arbitres qui arbitrent à tel niveau, et de jeunes arbitres, certes. D'arbitres de moins de 18 ans. Donc en fait, nous avons un quota à respecter. Donc dans le club, nous sommes obligés de faire du recrutement d'arbitres, de jeunes arbitres, faire la formation. Donc ça permet justement de renouveler l'arbitrage, et ça permet aux jeunes, quand ils se trouvent avec le sifflet, de relativiser quand ils sont joueurs.
Oui, parce que on l'a dit, c'est un sport qui devient de plus en plus physique, c'est un sport qui va très vite, on voit pas tout fatalement. Et puis il faut une très bonne condition, il faut être près de l'action, on voit pas tout.
Tout à fait. Tout à fait, on voit pas tout. Et puis ça va vite. Et puis bon, bah, de toute façon, on voit même que les professionnels arrivent à se tromper. Donc c'est vrai que quand en plus ce sont des arbitres qui ne sont pas professionnels ou de jeunes arbitres, il faut être tolérant.
Bon, on va pas revenir sur la demi-finale Allemagne-France chez les hommes parce que là, là c'était limite quand même l'honnêteté. Hein.
Ça fait partie du sport.
Ouais, ouais, ouais.
Quand il y a une différence, quand il y a un écart entre les deux équipes, ce n'est pas l'arbitre qui fait pencher le match.
Oui, des arbitres trop jeunes hein, pour à ce stade de la compétition, c'était ce qui avait été donc dit à l'époque. Hein,
oui.
On n'aurait pas dû confier donc l'arbitrage d'une demi-finale de mondial un arbitre aussi jeune sur le plan international.
Oui, mais bon, s'il a été désigné, je pense que c'est parce que les personnes qui l'ont fait pensaient qu'il avait la possibilité de le faire, les capacités.
Comment sont les gens dans les tribunes quand ils viennent voir un match au gymnase de Coubertin? C'est comme dans tous les sports, il y a des noms d'oiseaux ou alors au contraire un public très, très enthousiaste mais très fair-play?
Alors, un public très enthousiaste et très fair-play. Ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais il y a quelqu'un qui a un comportement incorrect, nous avons comment ça s'appelle ?
Un vigile ?
Non, c'est pas un vigile, c'est un surveillant responsable de terrain qui peut à ce moment-là demander à cette personne de sortir. Mais ça ne s'est jamais arrivé.
Hein. En général, au Rwanda, il y a très peu de débordements.
Tout à fait,
De débordements. Vous avez un club de supporters, non, qui vient au sein de votre club, comme ça, tous les week-ends de match, encourager vos équipes fagnons, garçons ou filles.
On n'a pas de club de supporters, mais on a souvent les mêmes qui reviennent, pour que ce soit les filles ou les garçons qui sont là à domicile. Oui.
Et est-ce que vous avez le temps filles d'aller voir les garçons et garçons d'aller voir les filles dans le calendrier, dans les emplois du temps, c'est souvent le cas, non?
Non, pas trop. Eh oui. Donc notre secrétaire, Yann Prioué, qui d'ailleurs je remercie parce qu'il fait un travail formidable.
Oui, on fait d'ailleurs tous les résultats tous les week-ends. Hein.
Il bosse très dur pour le club, s'arrange pour que les équipes filles et garçons jouent, on va dire, une ou deux fois dans la saison ensemble. Comme ça, ils peuvent se voir. Donc, que ce soit l'équipe une garçon, l'équipe une fille, l'équipe deux filles, l'équipe deux garçons. Enfin, voilà. Mmh. Il essaye d'arranger tout le monde pour que tout le monde voit tout le monde.
Donc, il y a vos équipes engagées en championnat, mais il n'y a pas que le championnat quand même dans vos clubs. Il y a aussi des tournois de fin de saison, non? De jeunes, d'équipes.
Oui, il y a des tournois de fin de saison. Donc, cette année, nous avions proposé à faire un tournoi sur Montigny-le-Bretonneux.
Oui.
Mais nous avons eu un refus de la municipalité. Donc, on va leur demander pourquoi ce refus. Je pense que c'est un problème de sécurité par rapport aux cages et aux poteaux de gardien de but.
Ah ouais.
Et pour essayer de l'année prochaine de proposer une solution. Parce que c'est vrai que ça serait bien que sur Montigny, on puisse organiser un grand tournoi.
Ah ouais. Et des matchs de jumelage avec des...
Alors ça, c'est...
Ça se fait souvent, ça aussi. Hein.
Voilà, donc ça fait un moment qu'on ne le faisait plus. Et j'ai une... Il y a une ou deux personnes qui travaillent sur ce projet-là pour l'année prochaine.
Mmh, d'accord. Et donc c'est tout. Vous participez à des matchs d'œuvres caritatives, le Téléthon ou tout ça, vous avez le temps aussi, non?
Oui, tout à fait.
Ouais.
Oui. Il y aura un match de hand là pour le Téléthon sur Montigny.
Ah bien, d'accord. Ok. Donc c'est-à-dire que c'est payant d'aller voir les matchs de vos équipes ou c'est gratuit au gymnase de Coubertin?
Alors cette année, c'est gratuit.
D'accord. Et en moyenne, ils sont combien dans les gradins, dans les tribunes
Pendant la Coupe du Monde de rugby, il n'y avait pas grand monde.
Vous aviez des belles concurrences ce soir, le samedi soir.
Il n'y avait pas grand monde. On va dire, ça peut aller entre 50 et 100 personnes. Voilà, c'est pas une salle pleine non plus, mais bon, on espère que ça viendra.
Le fait d'être dans la ville nouvelle, c'est une chance, parce que bon, vous ratissez large. Il y a de la concurrence, on l'a dit, et pas seulement que pour le hand, mais aussi à travers les autres sports. Vous ratissez large. Il vaudrait mieux plutôt avoir le hand des petits villages. Ce serait plus.
Alors, ce qu'il y a, c'est que le hand des petits villages et en province, ils arrivent à trouver beaucoup plus de partenaires que nous.
Oui, c'est ça.
Voilà, au niveau financier, ils ont beaucoup plus de partenaires.
C'est pour ça que je pose la question, c'est ça.
Nous, c'est beaucoup plus difficile.
Oui, c'est ça. Fatalement, il n'y a que l'embarras du choix, donc c'est difficile d'aller.
Voilà, et puis en plus, c'est vrai que notre équipe Fagnon, c'est une équipe féminine. Et c'est moins porteur. Alors, on a beau faire tout ce qu'il faut, c'est moins porteur. Les femmes rapportent moins que les hommes.
Eh ben, c'est bien, la transition, elle est faite parce qu'il va y avoir donc le mondial de hand féminin. Hein, oui. On l'a dit, on l'a répété depuis ce matin, ça va être un immense événement pour vous, hein, dont vous espérez des retombées. Il y aura, il faut le dire, les matchs quand même des phases finales sur Bercy. Hein, la finale sur Bercy, il y aura, je crois, une semaine de matchs sur Bercy. Hein,
À partir des quarts de finale, ouais, les demi, la finale et les matchs de classement.
Et puis des matchs un peu partout donc, en province. Hein, en France. Et puis, on l'a dit, donc, à plaisir, vous allez être sur le terrain, partie prenante, vous allez donc être dans l'organisation. Pourquoi ce choix des Yvelines? C'est parce qu'on a un comité, justement, je l'ai dit, très actif, hein, départemental olympique et sportif, et aussi parce que dans les Yvelines, parce qu'on aurait pu en faire dans le Val-de-Marne.
Ce sont les clubs qui répondent au cahier des charges.
D'accord, d'accord.
Voilà. Et donc, le club de plaisir s'est investi, a répondu, et a été retenu.
Vous le voyez comment, ce mondial, pour le hand, on peut ne pas le perdre, on est chez nous, on ne doit pas le perdre. On avait dit pareil pour le rugby.
Pour moi, l'équipe de France peut aller, devrait aller à Bercy. Après, on verra. Parce qu'en fait, c'est vrai que cette équipe de hand, même si elle a 8 anciennes, c'est quand même une équipe jeune.
Oui, c'est ça, elle était donc renouvelée, cette équipe de France. Parlait de PQ Roland, mais enfin bon, c'est une des rescapées de la vieille épopée.
Voilà, c'est ça. Bon, mais il y en a plusieurs. Hein. Donc il y a Cano, il y a Nicolas, il y a Herbrecht, Minglin, Corfanti et Tervel.
Donc les équipes à battre, ce sont les Allemandes, les Norvégiennes.
Bah, toutes les équipes, si on veut gagner.
Oui, mais ça, non, c'est bien. Non, mais enfin, il y a des équipes quand même qui sont plus favorites que d'autres, quand même.
Oui. La Norvège, bon, la Russie, qui risque aussi d'être un gros morceau. L'Allemagne. Oui, voilà.
Alors, des matchs à la télé, il y en a pas souvent pour le handball. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez quand même que votre sport est un peu plus médiatisé que par le passé? Pas suffisamment ou
C'est venu un petit peu déjà avec la Coupe du Monde de 99, où on a vu du handball sur les chaînes publiques.
Au tout dernier moment, quand même.
Tout dernier moment, mais on a vu les quarts et les demi, et la finale.
12 millions de téléspectateurs et téléspectatrices pour la finale. Hein.
Et en 2003 aussi.
Ah oui, en 2003.
Aussi. Donc là, comme ça se passe en France, j'espère qu'on en verra un petit peu plus que les phases finales.
Oui, parce que c'est vrai que souvent, bon, les gros chaînes, entre guillemets, bout de l'événement, et puis ils se raccrochent au tout dernier moment, quand il y a une demi-finale ou une finale, on voit des chaînes donc arriver sur l'événement, et souvent c'est vrai que les amateurs de hand
sont frustrés.
Bah oui, ils sont frustrés. Hein.
Bah oui, donc ils se prennent le réseau câblé.
Bah oui.
Voilà.
Et justement, donc, ça vous donne peu de matchs de championnat, tant chez les hommes que chez les filles, hein, auxquels on peut donc assister. Le championnat chez les hommes, hein, c'est Montpellier qui sera l'équipe à battre en D1 cette année.
Oui. Bah, Montpellier qui se retrouve déjà premier. Mais c'est vrai que par rapport à l'année passée, on sait maintenant qu'ils ne sont pas invincibles.
Bien sûr. Et chez les femmes, le championnat, Metz, Besançon, non, c'est les équipes à battre.
Oui, Metz.
Dans les D1, ouais, c'est toujours.
Toujours.
Oui, bien sûr, c'est toujours. Donc, ces équipes-là qui sont les équipes.
Quoi qu'ici, les Moulineaux se débrouillent bien cette année.
Est-ce qu'on a la possibilité de bien vivre de ce sport? Maintenant, vous l'avez dit, c'est un sport qui est devenu professionnel. On peut vivre correctement du hand, ou alors il y a encore certains handballeurs ou handballeuses qui ont une deuxième profession parallèle?
Alors, au niveau des garçons, je dirais qu'on peut un peu plus en vivre, mais que certains joueurs, hein, pas tous, il ne faut pas mettre tout le monde au même niveau. Chez les filles, c'est encore un peu difficile. Donc il faut, d'ailleurs, elles font souvent des études pour avoir un autre métier à côté.
Oui, des professeurs d'éducation physique, très souvent, ou comme ça. Et puis beaucoup partent à l'étranger quand même maintenant. Hein.
Oui.
Ouais, on a vu, Nicolas, votre gardienne d'équipe de France, elle joue à l'étranger depuis très longtemps. Oui. Chez les hommes, bon, on ne parle plus des joueurs qui sont partis donc sur l'étranger. Là, on gagne véritablement bien sa vie.
Oui, beaucoup plus.
Ouais. Et ça, c'est l'effet mondial, non? C'est le fait que vous êtes quand même le sport qui a le plus de titres, hein, dans les équipes nationales. Hein,
oui.
Parce que les garçons ont gagné 2 titres mondiaux et 1 titre de champion d'Europe. Les filles ont 1 titre de championne du monde.
Oui.
Donc, il y a eu des effets fatalement, indirectement. La fédération a surfé sur ce succès.
Oui, la fédération a surfé. Mais en fait, nous, au niveau des clubs, à part le nombre de licenciés qui a monté, si vous voulez, on n'a pas eu de trop de retombées de la part de la fédération.
Ah bon, vous pensez que la fédération n'a pas suffisamment
la fédération saisie, française
bondi sur l'occasion?
Je sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a un très grand écart entre la fédération française et les clubs. Mmh. Hormis les clubs de D1, D2. Ouais. Mais il y a un grand écart entre les deux. C'est deux mondes à part.
Ouais, d'accord.
Et on le voit quand on a nos quotas d'arbitrage, on a nos quotas d'entraîneurs. On a l'impression qu'ils veulent que le handball se professionnalise à tous les niveaux. Mmh. Chose qui sera très difficile. Un petit club en province ou un petit club.
Ouais, c'est ça, on parlait du rang des villages tout à l'heure.
Ne peut pas professionnaliser ses entraîneurs, ses arbitres, c'est pas possible.
Et puis parfois on manque de gymnase. Il y a des clubs qui parfois n'ont pas malheureusement les infrastructures nécessaires, les gymnases nécessaires dans les petits villages pour bien pratiquer.
Oui, tout à fait.
Le sport. Et la pub maintenant, elle est autorisée dans le handball, parce que très longtemps, il n'y a pas eu de pub sur les maillots d'un
handballeur.
Et ça, c'était quand même un sacré manque à gagner pour votre sport.
Oui, mais ça y est, c'est bon, maintenant on peut faire de la pub.
Très bien. Richardson, bon, qu'on connaît, on l'a interviewé, ça a été le meilleur ambassadeur, le meilleur icône possible.
Je pense, oui.
Oui.
Oui. Par son allure, par sa gentillesse, par sa spontanéité, oui. Très, très, très bon ambassadeur.
Oui. Même les filles, indirectement, en ont bénéficié quand même.
Oui, tout à fait.
Hein. Ok, allez, on va marquer un petit break musical. Oui, le temps passe vite, on va vous laisser souffler un peu. Donc,
merci.
Une petite pause musicale, et puis je crois qu'on ne devrait pas tarder pour parler de la course des quatre châteaux avec Stéphane Schubert dans quelques minutes. Bah 9h43, on attend donc Stéphane Schubert, s'il veut qu'on fasse la promotion donc des quatre châteaux, il faut vite qu'il se dépêche, Stéphane Schubert. Alors, du coup, on a un peu de temps, Madame Godefroy, pour quand même peut-être donner les places, parce que je suis sûr que beaucoup veulent encore savoir s'il reste des places pour ce championnat du monde de handball féminin.
Donc, les places du championnat du monde féminin, donc il faut aller sur le site de la fédération. Et pour les places sur plaisir, je sais qu'il reste des places sur plaisir, vous allez sur le site du handball de plaisir et là vous aurez les informations nécessaires pour obtenir des places pour les matchs qui vont se dérouler à plaisir. Donc à plaisir, ce seront les matchs des quatrièmes du tour principal qui vont se rencontrer, c'est la Coupe du Président.
Ouais, c'est-à-dire c'est quoi? Parce que pour le grand public c'est peut-être pas clair.
Alors
quoi.
En fait, donc,
ça veut
vous
dire
avez
quoi, la Coupe du Président, ça veut
alors
dire quoi?
Vous avez donc des tours. D'accord, un tour principal qui va se dérouler à Metz et à Dijon. Et là vous allez avoir les premiers, les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes. D'accord. Les deux premiers de chaque poule iront à Bercy. Les troisièmes se rencontreront à Beauvais pour des matchs de la Coupe du Président. Et tous les quatrièmes de ces poules se rencontreront à plaisir.
D'accord.
Voilà. Okay. Et après à plaisir, il y aura tous les matchs de classement de la 19e à la 24e place. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que c'est des matchs bon pour rire, mais non, ce sont quand même des matchs intéressants, ce sont quand même des matchs de
championnat du monde,
voilà, donc de championnat du monde avec quand même des équipes, et comme je vous l'ai dit, on l'a vu au rugby, c'est les petites équipes font des fois de très beaux jeux.
Très bien, voilà, on a notre ami Stéphane Schubert. J'avais peur qu'on ne parle pas des quatre châteaux, Stéphane, alors. D'accord, ok. Donc, vous avez un site internet aussi, donc on peut aller dessus pour demander n'importe quel renseignement, si vous le voulez.
Oui, tout à fait. Vous avez les résultats, les calendriers, les entraîneurs, les personnes à contacter. Voilà. Et autre chose, nous avons un entraînement spécifique gardien de but.
Ah bon?
Oui, par Philippe Médard.
Ah là,
donc, s'il y a des gardiens qui se sentent désœuvrés, ils peuvent venir chez nous, nous en cherchons, que ce soit homme ou femme.
D'accord. Et c'est pareil, il faut être grand, il faut être non ou
non,
un
pas
petit
forcément.
Peut être très leste et puis
chacun compense. Un grand va jouer sur son placement, le petit va jouer sur son dynamisme.
D'accord.
Voilà. Tout le monde a sa place.
Ben oui. Merci. Ben écoutez, on espère en tout cas de bons championnats du monde de handball féminin.
Merci beaucoup.
De bonnes retombées pour votre club de Montigny-le-Bretonneux.
Merci. Merci beaucoup.
Allez, on va enchaîner. J'avais promis sur la course à pied. Stéphane, bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Ça va bien, un petit peu en retard.
Non, mais ça va, j'avais peur que vous ayez raté le rendez-vous, c'était surtout ça, je voulais qu'on parle des quatre châteaux.
C'est bien gentil, oui, donc effectivement,
vous pouvez
dans 15 jours.
Madame Godefroy, jusqu'à 10h. Hein.
Non, monsieur.
Non, très bien, bon. Très bien. Merci beaucoup. Merci, voilà. Donc, on va effectivement parler de ce qui se profile dans 15 jours. Donc, c'est la course des quatre châteaux. Alors, Stéphane Schubert, d'abord un petit mot. Pourquoi l'avoir décalé d'un petit mois?
Donc la raison elle est toute simple, c'est que...
Les Catherinettes, non.
Oui, déjà, ça nous a bien attirés, donc comme ça on a plein de femmes. Ouais. Non, surtout, on était toujours sur, sur les vacances de la Toussaint, donc un gros souci pour justement réunir tous nos bénévoles. Donc on a préféré se décaler, c'était beaucoup plus simple. Donc là, on tombe sur un week-end qui est normal. Donc on s'est aperçu qu'effectivement, c'était beaucoup plus simple. Et au niveau des châtelains aussi, c'est une période qui est morte. Je pense notamment au château de Breteuil. Donc pour lui, ça lui fait une animation.
Ah ouais,
et donc très très bien, donc tout le monde s'y retrouve.
Et pour les coureurs, c'est facile de se préparer pour un 25 ans, parce qu'il n'y a pratiquement plus de course.
Alors effectivement, pour nous aussi, c'est une date qui est pas mal, parce qu'à part le marathon de La Rochelle qui va se dérouler le même week-end, on n'a que ça comme grosse course en face de nous. Donc et effectivement, c'est une course de fin de saison, donc au niveau athlétisme, on rentre dans une période de cross. Donc ceux qui n'aiment pas ou qui ne sont pas trop attirés par le cross, ça leur permet de terminer la saison par une belle course pédestre. Voilà.
Très bien. Alors, on va peut-être en faire un petit historique de cette course des Cajadeaux, parce que c'est vrai que votre épreuve, elle est particulière, elle est atypique.
Bah oui, donc c'est une course
charme.
Donc, on m'a dit, encore pas très longtemps, c'est son âme, c'est son esprit. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive sur la route des Cajadeaux, on sent que il se passe quelque chose. Il y a un accueil, il y a une ambiance. Donc, on est très contente que ça se passe comme ça et que les gens le ressentent comme ça. Et c'est vrai que c'est avant tout une grande fête du sport. Et chaque année, on a toujours quelque chose à défendre. Donc depuis l'an dernier, on a vraiment appuyé sur le développement durable, donc le sport et l'environnement. Oui. Donc on a vraiment bien travaillé cette année dessus, et cette année ça prend vraiment forme. Donc on a plein d'actions qui sont en route et qui vont être en place, et donc là c'est une très grande réussite, on est vraiment très très content.
Alors on va rappeler, la course des quatre châteaux, c'est parce que ça passe dans quatre villages qui possèdent des châteaux, c'est ça?
Tout à fait. Donc les coureurs vont franchir, donc vont passer dans le parc du château de Mauvières, donc qui se trouve à Saint-Forget, effectivement. Mmh. Ensuite, relier le château de Breteuil, donc sur la commune de Choisel. On va faire un petit passage en 91, donc faire un petit coucou aux Essoniens, donc en passant par le village de Boulay-les-Trous.
Ah oui.
Donc, bien sûr, il y a le château de Méridon, donc qui est limitrophe avec le 91, qui fait partie de la commune de Chevreuse. Et pour terminer, par le château de Coubertin, donc qui est sur la commune de Saint-Rémy-les-Chevreuses, avec un retour sur le parc des sports de Chevreuse. Donc, c'est vrai que c'est une belle balade de 18,5 km. Avec des difficultés, j'avoue, sur les 7 premiers kilomètres. Donc, si nos amis coureurs nous écoutent, je leur conseille de temporiser sur les 7 premiers kilomètres. Voilà. Mais bon, ensuite, il n'y a pas de souci, ça se passe très très bien. Le retour est plutôt roulant.
C'est un parcours qui a changé depuis plusieurs années, ou
non? Pas du tout.
On
non,
l'a
non.
Modifié.
Non. Alors justement, je pense aussi, c'est ce qui fait un petit peu aussi notre caractère, c'est-à-dire que on est sur la 8e édition et on a fait 6 éditions avec le même parcours. Donc là, on est sur deux éditions avec un parcours un petit peu plus long parce qu'on a rajouté un château. Et je vous promets, amis coureurs, que d'ici 4-5 ans, nous allons rechanger le parcours. Toujours route des 4 châteaux, mais en vous faisant découvrir autre chose encore. Donc toujours la surprise. On ne veut pas fêter le 30e anniversaire avec toujours le même parcours, avec toujours les mêmes choses. On veut vraiment du changement, on veut de la vie, on veut de l'énergie. Donc, et je pense que les coureurs qui viennent nous voir, c'est un petit peu pour ça aussi. Trouver un petit peu de changement, trouver des surprises. Donc on est très content et on va y contribuer très largement.
Alors, je suis aussi allé sur votre site internet, on parlait du site du Hand, et là, les inscriptions, elles sont closes.
Elles sont closes depuis, depuis 10 jours.
Victime de votre succès.
Donc, effectivement, depuis 10 jours, donc c'est bouclé, donc on est content. Donc, sachez qu'on a même poussé un petit peu plus, mais on n'ira vraiment pas au-delà, et ceux qui souhaitent venir, ça ne sert vraiment à rien. Là, on a vraiment tout bouclé, on est à 2400 inscriptions. 2400, on n'ira vraiment pas au-delà, et donc voilà. Donc on leur donnera rendez-vous le 23 novembre prochain, donc 2008 pour l'année prochaine, mais surtout prenez-vous à l'avance pour ces inscriptions, parce que c'est vrai que les gens attendent toujours le dernier moment, mais prenez vraiment vos précautions par rapport à la route des 4 châteaux. Par contre, si on a un petit peu de temps, j'aurais voulu appuyer sur le développement durable, c'est-à-dire que cette année on a vraiment appuyé parce qu'on en parle, beaucoup actuellement dans les actualités. Nous, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, et c'est bien d'en parler, mais à un moment donné il faut aussi agir. Donc cette année on a vraiment agi, on s'est entouré de partenaires, parce que on ne peut pas le faire tout seul. Il faut vraiment s'entourer de filières déjà existantes. Donc, on a des partenariats avec la Lyonnaise des Eaux, avec le SIOM. Il y a aussi la mairie de Chevreuse qui nous appuie. Mmh. Aussi, Auchan-Maurepas. Et donc ça, je tenais à le souligner parce que on en parle, mais on n'agit pas. Donc sachez que le développement durable, un projet de développement durable, c'est pas si coûteux que ça. C'est une autre façon de s'organiser, et je peux, en termes financiers, c'est même entre guillemets rentable. Alors que c'est pas trop le mot pour le développement durable, mais je peux vous dire qu'en tant qu'organisateur, c'est très valable. Et ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à me contacter. On vous donnera vraiment notre plan d'action, et ça marche très bien.
Très bien. C'était combien le droit d'engagement ?
Alors, 11 euros.
11 euros.
11 euros. Et donc, on reste relativement raisonnable. Et justement, ça fait partie une des règles du développement durable, c'est-à-dire l'accessibilité à tout le monde. C'est vrai qu'il y a une, comment dire, il y a quand même une surenchère au niveau des frais d'inscription sur les belles classiques. Hein. Et c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. Donc, nous, on essaie de conserver ce prix-là, sachant quand même que l'année prochaine, on passera à 12 euros parce qu'au niveau budget, on a du mal quand même à rentrer dans nos frais. Donc voilà, donc l'année prochaine, c'est vrai que la course passera à 12 euros, mais on ne veut pas aller au-delà, simplement des frais d'inscription pour couvrir les frais de l'organisation uniquement. Sachez aussi, on est tous bénévoles, ouais. Donc c'est aussi un avantage pour nous, c'est-à-dire qu'on n'a personne à payer, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on arrive à rester raisonnable au niveau du prix.
Alors, y a une équipe qui travaille avec vous ?
Oui. Donc j'ai 25 personnels, je dirais, qui font partie du comité d'organisation. C'est 280 bénévoles qui vont se réunir le jour même, disons, ouais, dès la veille, donc pour participer à la réussite de cet événement. Donc ça aussi, c'est la clé de la réussite, c'est-à-dire d'être bien entouré, c'est d'apporter les donc que chacun apporte ses compétences, et le tout. Et moi, mon rôle, en fin de compte, c'est d'être chef d'orchestre et de faire tout ce mélange de compétences et de les mettre en place, et ça se passe très très bien. Et de toute façon, la route des quatre châteaux, c'est une de ses réussites, c'est-à-dire c'est un groupe très uni où chacun apporte ses compétences. Donc ça, c'est évident. Sachez qu'on s'amuse très très bien.
Oui, justement, j'allais en parler, il y aura encore des gens déguisés, parce qu'on voit des gens qui se déguisent et qui font toute la course.
Tout à fait. Et il y a des mousquetaires, il va y avoir des bagnards. Alors malgré le 25 novembre, tous ces gens déguisés, j'espère qu'il n'y aura pas la pluie pour eux, pour leur déguisement, mais ils viennent déguisés avec la joie, dans la joie et la bonne humeur. Bien sûr, toujours avec une petite récompense, parce que ça nous fait plaisir qu'ils viennent comme ça, ça colore un petit peu le peloton, et puis ça met vraiment de l'ambiance. Sachez que l'ambiance, effectivement, nous, on met l'accueil en place. Sachez que l'ambiance, c'est avant tout les coureurs qui la mettent, et on donne la tonalité, et c'est vraiment eux qui assurent. Ça, je peux vous dire que je retire mon chapeau, et encore un grand merci à vous, mes amis coureurs.
Oui, les autres partenaires, ce sont des fidèles depuis longtemps.
Oui, tout à fait. Ce sont vraiment des fidèles des premières heures. Hein. Je pense à Onip, la Caisse d'Épargne aussi, donc Reebok qui nous a rejoint depuis quelques temps, donc on essaie de mettre à la page sur le développement durable, mais c'est bon, ils vont s'y mettre. Mais ou sinon les mairies nous suivent, donc vraiment un concours de la mairie de Chevreuse qui nous met les infrastructures en place et qui nous permet de réaliser aussi la route des quatre châteaux. Donc on espère un concours un petit peu plus vif du conseil général et du parc naturel par rapport à notre projet sur le développement durable. Donc ça, c'est un souhait. Je pense que le message, il est déjà passé, et j'espère vivement un concours de leur part, car ce sont vraiment aussi des acteurs actifs, surtout le parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse. Donc j'espère vraiment un vrai concours dès l'année prochaine. Voilà.
D'accord. Les lots proposés, quels sont-ils ? Que vont ramener les concurrents ?
Alors les concurrents, très bonne question, justement, toujours dans le cadre du développement durable, les concurrents auront comme récompense un bidon et un porte-bidon. Alors, c'est plus le t-shirt. Donc ils l'auront dès le départ. Donc justement, avec notre partenaire la Lyonnaise des Eaux, qui va mettre en place des rampes d'eau, les concurrents vont pouvoir dès le départ remplir leur bidon d'eau. Ça leur permet d'être autonomes en eau sur tout le parcours, et nous, en fin de compte, d'acheter moins d'eau, et donc de faire une économie en termes de bouteilles plastiques et de créer moins de déchets. Donc ça va vraiment dans ce projet-là, et donc j'espère que les coureurs apprécieront ce geste et contribueront justement à la diminution de déchets. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment une grande nouveauté, et donc voilà, la récompense sera un bidon et un porte-bidon qu'ils auront dès le retrait des dossards et qu'ils pourront remplir juste avant le départ. Il y aura des rampes d'eau mises à disposition.
D'accord. Une épreuve comme celle-ci, elle se prépare un an avant ?
Tout le temps.
Tout le temps, ouais.
Tout le temps. Il y a des gros pics.
Une fourmi d'idées comme ça.
Oui, tout à fait. Effectivement, pour tout vous avouer, là, on parle du 25 novembre, donc on a eu notre dernière réunion, le comité, vendredi dernier. Mais là, déjà, on pense déjà à l'année prochaine. On est déjà sur l'année prochaine. On a déjà des rendez-vous de prix. On réfléchit déjà au système de chronométrage. On réfléchit déjà aux récompenses. On réfléchit à beaucoup de choses. Par exemple, le bulletin d'inscription, qui est fait en papier recyclé. L'an dernier, on était à 12 000 tirages. Cette année, on est descendu à 5000 tirages et l'année prochaine on descend à 2000 tirages. C'est-à-dire qu'on va faire une économie de papier via le site internet, via la messagerie électronique. On s'est aperçu que ça a bien tourné et la course a été bouclée grâce justement à de la communication faite justement via internet. C'est-à-dire que l'envoi de mailing, on n'envoie plus de mailing, on envoie un mailing via internet. Donc ça a vraiment bien marché et on va continuer dans ce sens-là. Donc messagerie électronique. Et voilà. Donc voilà, pour vous dire que on est vraiment satisfait, donc il n'y a plus qu'à.
Ouais. Il n'y a pas de grosses difficultés à mettre des épreuves comme ça sur pied, s'il y en avait lesquelles autorisations, les sous-bois, les...
Ouais, non. La grande difficulté, quand même, on la rencontre encore cette année, on est tous bénévoles. C'est-à-dire que cette course, on s'en occupe après notre travail. Moi, personnellement, j'ai un travail qui ne me permet pas vraiment de pouvoir être libre dans la journée. Donc je travaille que le soir en rentrant chez moi. On est quelques-uns comme ça. Alors c'est un petit peu délicat et c'est vrai qu'il faut vraiment avoir un métier approprié pour pouvoir s'occuper de ce genre d'événement. Donc je pense que notre gros souci à nous, c'est notre temps. C'est-à-dire que pour nous, c'est un deuxième travail et j'insiste, on est vraiment tous bénévoles et c'est notre grande difficulté. Maintenant, au niveau des autorisations, effectivement, le cahier des charges est relativement lourd. C'est vrai qu'on est, on nous sollicite pas mal et justement, nous aussi, on nous sollicite la journée, mais la journée, on n'est pas toujours libre et à rappeler en temps et en heure. Donc, mais bon, ça se passe bien, ça se passe relativement bien.
Très bien. Donc, on va rappeler, question. Donc, ça sera dans 15 jours. On aura d'ailleurs un de nos reporters qui sera là-bas.
Ah, bonne nouvelle. Un grand plaisir,
donc,
oui.
Il interviendra régulièrement tout au long de notre matinée.
Oui.
Donc, la distance, elle est de 18 km 500. On l'a dit. Le départ, donc, ça sera à la mairie de Chevreuse. Alors, pour les femmes, à 9h30 et pour les hommes, à 9h38.
Tout à fait. 8 minutes après.
Ouais, arrivé, donc, au parc des sports de Chevreuse.
Tout à fait. Vous avez tout dit. Hein, vous avez tout dit.
Et puis, on va rappeler que l'accueil d'Ossard se fera juste à côté. Donc,
oui, alors très important,
Fernand Léger, parc des sports de Chevreuse.
Tout à fait. Alors pour nos amis coureurs, surtout n'hésitez pas à venir la veille parce qu'on fait un retrait des dossards la veille, le samedi de 14h à 19h. Ouais. Ça va quand même, si vous venez nombreux, ça va permettre le jour même aux autres coureurs qui viennent de loin de pouvoir passer plus facilement et qu'on prenne vraiment le départ en temps et en heure. Donc si ceux qui habitent dans le secteur de la vallée de Chevreuse, n'hésitez pas à venir dès le samedi, ça sera vraiment un grand service rendu à l'organisation. Et puis vous, dès le matin, dès que vous arrivez, vous êtes prêts, vous avez déjà votre dossard, votre bidon, votre porte-bidon, prêt en eau et prêt à prendre le départ pour relever ce défi de la route des quatre châteaux.
Voilà, puis ce qui est très bien, c'est qu'il y aura des navettes aussi
sortie
du RER de Saint-Rémy-les-Chevreuses.
Tout à fait, des navettes, donc dès 7h30 le matin, vous pourrez prendre les navettes qui vous emmèneront directement sur le gymnase et donc voilà, et vous aurez en plus sur place un vestiaire gratuit, vous pourrez laisser vos affaires, les récupérer tranquillement après la course.
Très bien, merci Stéphane.
Et je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.
Dans 15 jours et merci à Madame Godefroy, donc présidente de la section de Montigny, le Bretonneux. Tiens, on va rester sur Chevreuse, on va recevoir le FC Valais pour Tribune Foot.
Ah, très bien.
Allez.
Merci bien.
Il est 10h, bon dimanche sur RVE.
À l'espace Rambouillet.